est 17h30 en temps universel, 19h30 ici à Paris, l'heure du débat du jour sur RFI.
Le débat du jour.
La peine d'inéligibilité de Marine Le Pen, condamnée avec d'autres figures du RN pour détournement de fonds du Parlement européen, secoue son parti, mais aussi la société française tout entière. Depuis une semaine, la dirigeante du parti d'extrême droite et son entourage dénoncent, je cite, un viol de l'état de droit, une condamnation politique qui émanerait, je cite, là encore, de juges rouges, une escalade rhétorique qui rappelle les attaques de Donald Trump contre la justice américaine, alors qu'il était poursuivi dans le cadre de plusieurs affaires en pleine campagne présidentielle et on connaît la suite de l'histoire. Le Républicain a réussi à être élu malgré tout, au contraire cela semblerait l'avoir aidé. Et si la même histoire se reproduisait en France ? Marine Le Pen vers un scénario à la Trump, c'est la question que l'on se pose ce soir avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Rivière.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, consultant en stratégie d'opinion et puis vice-président de la Maison de l'Europe de Paris. Également en studio avec nous Jean-Philippe Moinet, auteur et fondateur de la Revue Civique, ancien président de l'Observatoire de l'extrémisme et auteur du livre Un journal sous influence aux éditions Ali Ribelli. Bonsoir monsieur.
Bonsoir Diane Berger.
Et puis nous sommes aussi avec Aurélien Devernois du service politique de RFI. Bonsoir Aurélien.
Bonsoir Diane, bonsoir à tous.
Alors il faut d'abord rappeler que le sort de Marine Le Pen n'est pas définitif, hein. Il y aura un procès en appel. Mais la figure de proue du Rassemblement National est tout de même dans une très mauvaise passe à l'approche de la prochaine présidentielle. Inéligible pour 5 ans, sauf revirement de la justice en cas de procès en appel. Le RN devra donc peut-être choisir un autre visage pour la campagne. Depuis une semaine, on assiste à un branle-bas de combat au sein du parti, avec une pétition, une manifestation hier dimanche à Paris et une escalade verbale conséquente. Alors je me tourne d'abord vers vous Emmanuel Rivière. Cette rhétorique très trumpienne, est-ce qu'elle peut faire peur aux potentiels électeurs du RN ou est-ce qu'au contraire ça va les galvaniser ?
En fait, il y a deux rhétoriques. Il y a une rhétorique qui consiste à, dans un premier temps, s'indigner de le caractère provisoire et donc applicable immédiatement de l'inéligibilité, en arguant du fait que ça privait Marine Le Pen d'une voie de recours. En fait, cet argument est un peu tombé, puisque, de fait, il y aura un jugement en appel vraisemblablement à l'été 2026. Du coup, il y a l'autre rhétorique qui consiste à remettre en cause, en fait, les fondements même de la décision et à parler d'une justice qui serait une justice dictée par des considérations politiques. Et là, quand on regarde les enquêtes qui montrent qu'aujourd'hui, par ailleurs, majorité des personnes interrogées considèrent qu'il ne s'est rien passé d'anormal. En revanche, l'électorat du Rassemblement national, ses sympathisants, s'indignent et adhèrent à cette thèse. Et d'ailleurs, toute la question est là, en fait, puisque ça représente un tiers de l'électorat, hein, le Rassemblement national, en tout cas un tiers des exprimés lors des dernières législatives. Le défi pour le Rassemblement national, pour Marine Le Pen, si elle réussissait à être candidate ou pour un éventuel remplaçant, c'est de passer d'un tiers à 50% dans une élection présidentielle où il faut gagner avec 50% au second tour. Et donc, si l'électorat qui semble assez soudé autour de ses chefs de file pour dire qu'on lui fait un mauvais sort, a l'air de pas du tout fléchir, hein. D'ailleurs, les enquêtes d'intention de vote qui ont été réalisées, qui ont été publiées à l'issue du verdict montrent qu'on a toujours Marine Le Pen, si elle était candidate au-dessus de 30%. En revanche, ça peut être plus compliqué pour gagner un électorat beaucoup plus légitimiste qui n'adhérera pas forcément aussi facilement à la thèse d'une Marine Le Pen poursuivie pour des raisons politiques et non pas sur le fondement d'une incrimination qui serait fondée en droit et en fait. Et là, c'est compliqué, effectivement. C'est comment renoncer à cette rhétorique presque trumpienne, incontestablement, tout en ne renonçant pas à l'honorabilisation qui a été la stratégie du Rassemblement national depuis maintenant une dizaine d'années.
Oui, c'est ça. Ça peut mettre un coup d'arrêt à la dédiabolisation de trop aller dans cette rhétorique qui va quasiment à l'encontre de l'état de droit.
C'est-à-dire, si Marine Le Pen se banalise d'une certaine manière, si elle devient une personnalité politique normale, si c'était pas elle, si Jordan Bardella apparaît comme une personnalité politique normale, à ce moment-là, il doit leur arriver des trucs normaux. Et ce qui est normal pour les Français, et ça, quand on pose des enquêtes hors contexte, ils le disent très clairement, c'est que quand on est pris dans les filets de la justice et qu'on est condamné, à ce moment-là, on est discrédité. La normalisation normalement, ça voudrait dire, et c'est arrivé à bien d'autres avant Marine Le Pen, que si on est condamné par la justice, ça devient normalement plus compliqué. Toute la question est là. Est-ce que ses représentants se sont vraiment totalement banalisés?
Oui, et Jean-Philippe Moinet, je vous voyais acquiescer. Vous partagez ce constat du fait que là, finalement, on va voir un RN avec une base galvanisée, mais qui ne sera plus capable forcément d'élargir son socle électoral?
Oui, je pense effectivement que même, il faut aussi le prendre en conditionnel, on est dans une période de trouble dans toutes les démocraties occidentales où les bascules sont possibles. Donc vous avez raison d'introduire ce débat sur ce qui s'est passé aux États-Unis, où certains voyaient de loin l'arrivée de Donald Trump à partir des outrances et radicalités et des contre-vérités qu'il a assénées pendant sa campagne. Eh bien, il a été élu. Cependant, il y a des grandes différences avec la France sur plusieurs points. Et c'est vrai que dans les études d'opinion qu'on a vues toute la semaine, il y a une forte, très majoritaire intransigeance de l'opinion publique sur le sujet des détournements de fonds publics. Quels que soient les partis politiques dans l'histoire récente, qui ont tous, quand on remonte à Urbain Gracco d'il y a 40 ans à aujourd'hui, tous les partis ont été touchés. Et on voit cette opinion intraitable sur le sujet des détournements de fonds qui s'applique aujourd'hui. J'étais très étonné de voir les niveaux des deux tiers de l'opinion publique française, donc des Français, considèrent que finalement cette condamnation soit ne les choque pas, soit même ils y trouvent une normalité finalement. Et donc cette logique de la victimisation de l'extrême droite française, qui rejoint celle du père Jean-Marie Le Pen et d'autres extrêmes droites en Europe qui veulent atteindre le système, disent-ils, de l'état de droit et des juges en particulier, eh bien cette victimisation a quelques limites. Et on l'a vu dès hier avec la faiblesse des foules partisanes.
Oui, au rassemblement à Paris, où il n'était finalement que quelques milliers. Dès qu'on voyait des photos en plan large, on se rendait compte que le rassemblement existait, mais il était relativement faible.
Quelques milliers de partisans, à un moment extrêmement critique, où la leader de cette famille politique se dit-elle, éliminée de la vie publique. Et qu'est-ce qu'on a vu? Quelques milliers de partisans. Ce qui n'est pas sans lien avec ce qui se passe dans l'opinion publique. Encore une fois, où la majorité du peuple considère qu'il y a une certaine normalité dans la condamnation, avec cette distinction entre le sujet de fond, détournement de fonds publics, et le sujet de l'inéligibilité, qui est un sujet sur lequel, elle joue la carte de la sensibilité sur cette question et du thème de la confiscation de sa candidature, qui est un sujet qui a une certaine résonance, un écho dans une partie de l'électorat au-delà du sien.
Et vous avez utilisé le terme de surprise. Vous avez été surpris de voir finalement que l'opinion publique française, aux deux tiers, était plutôt à l'aise avec cette condamnation.
Oui.
Avec la surprise et l'idée que ce n'était pas naturel, en fait.
À ce niveau-là, oui, j'étais surpris. Il y a un chiffre, 68%, par exemple, qui considère juste, y compris l'exécution provisoire de l'inéligibilité. Et une grande majorité aussi, d'après une étude, considère que revenir sur cette loi sur l'inéligibilité et l'exécution provisoire n'est pas souhaité très majoritairement aussi. Donc on voit bien que finalement, pour un parti qui dit incarner le peuple matin, midi et soir, le peuple français est très sévère concernant tout ce qui concerne les condamnations de justice, ce qui fait quand même une différence aussi pour une raison sociétale et culturelle, c'est qu'aux États-Unis, le rapport à l'argent n'est pas le même que celui des Français pour différentes raisons qui pourraient être longues à énoncer, mais qui sont liées à la tradition culturelle française, qui n'est pas celle des États-Unis, où le rapport au business a fait que peut-être ça a facilité aussi l'arrivée de Donald Trump. En France, le rapport à l'argent est beaucoup plus moralisant, et en l'occurrence, plutôt à juste titre.
Mmh. Aurélien Devernois, Marine Le Pen est-elle un Donald Trump potentiel ou justement, comme le disait Jean-Philippe Moinet, elle n'est pas exactement Donald Trump? Il y a une différence entre la France et les États-Unis.
Oui, il y a une vraie différence. Après, sur les chiffres qui ont été évoqués, moi je pense qu'il faut quand même peut-être faire une différence entre le fait d'approuver la condamnation de Marine Le Pen, de dire elle a commis un délit, donc elle est punie, et de ne pas voter pour elle. Ça veut pas, c'est pas parce qu'on n'approuve pas qu'on approuve sa condamnation, qu'on ne va pas voter pour elle. Parce qu'il y a finalement une équation qui existe en France, mais je pense qui est un peu proche de celle des États-Unis, c'est le côté tous pourris. finalement, on considère que tous les partis politiques, quels qu'ils soient, s'en mettent un petit peu dans la poche au passage, etc. Et c'est un sentiment qui est assez fort en France. Et puis, le côté « on n'a pas essayé », fait qu'il y a toujours un certain attrait pour le Rassemblement national, qui est, en gros, le seul grand parti en France aujourd'hui qui n'a jamais été au pouvoir. Donc, il n'y a peut-être pas un lien direct, en fait, entre le fait de dire Marine Le Pen, elle écope de ce dont elle doit écoper, et par ailleurs, le fait de dire on ne votera jamais pour le Rassemblement national, d'autant plus qu'il y a des alternatives, et les militants du RN le disent. Ils disent, de toute façon, on a toujours au pire Jordan Bardella. Après, pour revenir sur la question de Trump, oui, je suis d'accord avec ce que disait M. Moinet, c'est, en effet, le rapport à l'argent n'est pas le même en France, et donc le rapport à la probité est peut-être pas exactement le même, même si aux États-Unis, ou alors on ne se situe pas peut-être sur les mêmes questions. C'est-à-dire que peut-être que les États-Unis sont plus prudes sur les questions de mœurs, par exemple, et moins sur les questions d'argent. Bon, après, c'est des choses qu'il faudrait peut-être creuser plus. Mais en tout cas, moi, je trouve que la grosse différence entre Donald Trump et Marine Le Pen, là, dans ce qui s'est passé dernièrement, c'est que Marine Le Pen, on sent qu'elle hésite. Elle ne va pas au bout de la contestation. Elle ne va pas dans la surenchère comme le fait Donald Trump. Elle hésite parce que, justement, il y a cette question de la dédiabolisation, de paraître comme un parti normal, qui rassure les foules, les électeurs, etc. Et donc, on sent qu'elle se dit, si je vais trop loin, peut-être que ça va me revenir dans la figure. Ce qui n'est pas évident, d'ailleurs, hein. Peut-être que si elle allait encore plus loin, encore plus fort, on lui en porterait pas forcément rigueur, parce que quelque part, on en revient sur la question du tout pourri. Ok, elle a pris de l'argent, elle est condamnée, mais finalement, ça ne nous empêchera pas de voter pour le RN.
Mais effectivement, on voit les cadres du RN marcher un peu sur une ligne de crête. Alors, à condamner, par exemple, les juges rouges, une formulation qu'on a beaucoup entendue, on voit aussi Jordan Bardella quand même prendre le temps de condamner les menaces de mort reçues par les magistrats à l'origine de la condamnation. On sent bien une forme de gêne au sein du RN, Frédéric Rivière.
Alors, c'est Emmanuel, mais...
Excusez-moi. Oui, Frédéric Rivière, c'est quelqu'un de RFI, d'où le lapsus, excusez-moi. Et Emmanuel Rivière.
En fait, le Rassemblement National, ça fait un moment qu'ils sont presque contraints de jouer sur deux tableaux à la fois. Sans subir tant que ça les préjudices, d'ailleurs. Parce que hier, dans son allocution, effectivement, elle a dit les deux choses, Marine Le Pen. Elle a dit, je fais confiance à la justice de mon pays, je n'assimile pas l'ensemble des magistrats. Mais elle a aussi lâché qu'elle s'estimait victime d'une forme de complot politique. Et les deux rhétoriques existent en parallèle, et en partie parce qu'il y a une composante anti-système très forte dans l'électorat du Rassemblement National, qui va adhérer en fait à la thèse de la persécution et d'une justice aux ordres et d'une instrumentalisation politique pour écarter une candidate, pour reprendre ces termes, au moment où elle s'apprête à accéder au pouvoir. Mmh. Et à côté de ça, elle donne aussi quelques gages inverses. La question, c'est d'ailleurs, si on fait un petit peu d'anticipation, puisque je pense que c'est raisonnable, qu'est-ce qui se passera en juin ou juillet 2026 si jamais la Cour d'appel confirme le jugement et la condamnation? Est-ce qu'on va basculer dans une seule des deux rhétoriques? Auquel cas, on rentrerait, je pense, quand même en zone dangereuse. Alors, à quel point dangereux? C'est là où il y a aussi une différence. C'est que, aux États-Unis, qu'on se le rappelle, la majorité des électeurs qui se considèrent comme républicains avaient fini par adhérer à la thèse de l'élection volée. À la thèse selon laquelle, pour dire les choses clairement, Joe Biden était illégitime car il n'avait pas vraiment gagné l'élection présidentielle. Donc la moitié des gens qui se reconnaissent comme étant proches de un des deux grands partis qui rythme l'alternance dans un système bipartisan aux États-Unis. C'est peut-être toute la différence ici. L'électorat du Rassemblement National, je pense qu'il est assez peu dans cette idée que oui, ok, elle a fauté, mais finalement ils le sont tous. Mais pour autant, on va quand même voter pour elle. Ils sont plutôt dans l'idée qu'effectivement la condamnation est injuste, les électeurs du Rassemblement National. Et toute la question, c'est est-ce qu'on peut faire à partir d'un socle qui est un socle très ferme, très indigné aujourd'hui, même frustré à l'idée de ne pas pouvoir voter pour Marine Le Pen. La même chose que quand on s'appuie, comme Donald Trump aux États-Unis, sur, d'une part, effectivement, les Républicains et leur électorat, des composants de l'électorat qui sont dans un soutien quasi mécanique. Par exemple, aux États-Unis, les évangélistes blancs votent à 90% pour Donald Trump. Et finalement, indépendamment de tout ce qu'il peut y avoir de choquant dans le personnage par rapport à leur vision du monde, juste parce qu'il est l'instrument de ce qu'ils estiment être fondamentalement le plus important. Il n'y a pas ces composantes-là. Et donc, il y aura vraiment un débat sur le gap, j'y reviens parce que ça me semble essentiel, entre les 35 et les 50% et le caractère potentiellement considéré comme quasi séditieux de dire « je ne suis attaqué qu'au nom » d'une injustice et d'une manœuvre politique, ce qui arrive. Il y a des mobilisations en Turquie en ce moment parce que le candidat Imamoglu est écarté pour des raisons judiciaires. Mais c'est pour ça qu'on va arriver à un débat qui est
arbitraire d'un pouvoir.
Voilà, et c'est ça. Mais du coup, c'est la même rhétorique, mais des situations différentes. Et du coup, je crains qu'on en arrive assez rapidement à un débat de fond sur l'état de droit.
C'est-à-dire, Monsieur Moynet, je vois que vous voulez réagir.
Oui, pour rejoindre les deux perspectives sur la campagne future et les analyses qu'on fait sur les probabilités diverses. Je rejoins le journaliste l'éminente rédaction de RFI pour dire qu'il y a évidemment des raisons pour son électorat de voter Marine Le Pen qui vont rester. La première étant les thèmes qu'elle utilise ou instrumentalise.
Et le rejet de l'immigration, la question de la sécurité.
Ce socle qu'évoque Emmanuel Rivière, d'une solidité aussi dans la victimisation, d'autant plus solidifiée qu'il se sent mis en cause dans ses fondamentaux de candidature. Mais il y a un sujet quand même, c'est que quand on se souvient de la campagne de François Fillon, une campagne, c'est une dynamique. Donc, imaginons l'appel qui conduit à une confirmation au fond, la condamnation, mais pas de inéligibilité pour autant, qui permet à Marine Le Pen d'être candidate. Qu'est-ce qui se passe pendant sa campagne sur la sécurité et sur la fermeté de la justice? Il va y avoir, on le voit déjà, sur les réseaux sociaux, une sorte de moquerie généralisée et des attaques de tous ses adversaires sur le sujet de sa non-exemplarité. Ça va être un élément au débit de sa campagne, même si les sujets au crédit de sa campagne vont rester. Mais son message risque, comme François Fillon, d'être pollué matin, midi et soir par ses adversaires et une partie des médias qui feront examen de cette campagne difficile. Et je pense que dans les rangs du Rassemblement national aujourd'hui, le plan B, dont la dénégation est permanente par Jordan Bardella, est déjà évoqué, par définition, puisque s'il y a la confirmation complète avec l'inéligibilité, forcément, sauf si elle va droit contre l'état de droit et la justice, en étant quand même candidate, mais on ne voit pas comment elle pourrait l'être, eh bien, Jordan Bardella est déjà dans les esprits du Rassemblement national comme un plan B, même s'il le nie, avec d'ailleurs un esprit très détendu. Ce qui m'a frappé après le meeting d'hier de Marine Le Pen, c'est que Jordan Bardella était très détendu, au point de bavarder d'ailleurs pendant le discours de sa présidente, qu'il a soutenu comme la corde le pendu.
Mm-hmm. Vous voulez réagir?
Oui, très rapidement. Ce qui était frappant d'ailleurs dans cette séquence de cette semaine, c'est qu'au fond, le débat sur l'inéligibilité a permis à Marine Le Pen d'éviter un autre débat, qui était, est-ce qu'on peut être candidate à l'élection présidentielle en ayant été condamné en première instance, quand bien même il y a un recours et donc la présomption d'innocence vaut. Je trouve qu'on est passé un peu vite d'une république où on considérait qu'on ne pouvait pas être ministre et mis en examen, où François Fillon dit encore, avant d'être lui-même gagné par les ennuis, imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen pour disqualifier la candidature de Nicolas Sarkozy qui lui l'était, la perspective qui pourrait être un peu choquant que Marine Le Pen, sous l'objet d'une condamnation en première instance, puisse ne pas être notre candidate. Une espèce de glissement, là. Et alors, on peut s'interroger sur la raison du glissement. Jean-Philippe Monnet rappelait les affaires Urbain-Braco du Parti Socialiste, le Parti Socialiste qui a été balayé au moment des législatives de 93, dans la séquence, dans la suite de ces affaires, par une bérésina épouvantable. Voilà, François Fillon, effectivement, et qui était favori de l'élection présidentielle, n'a pas été qualifié pour le second tour, mais il fait 20% quand même. Donc est-ce qu'on n'est pas dans un glissement où finalement il y a une espèce de tolérance? Et je ne sais pas si elle vient de l'opinion. Parce qu'au moment où François Fillon effectivement fait ses 20%, on a 80 à 90% des électeurs dans deux sondages assez parallèles qui considèrent qu'une personnalité politique qui est condamnée pour des faits de corruption doit être inéligible à vie. Il y a même, dans un même sondage, 80%, 83% des électeurs et 84% des électeurs du Rassemblement National qui considèrent qu'on ne pourrait pas, on ne devrait pas pouvoir se présenter à une élection si on n'a pas un casier judiciaire vierge. Donc il y a une vraie demande de sévérité, normalement de l'opinion, en théorie. Et j'ai l'impression qu'il y a une forme de permissivité où finalement on finit par s'accoutumer dans la manière dont on commente les faits auxquels on a été confrontés cette semaine.
Oui, vous avez parlé de glissement de l'opinion, Emmanuel Rivière. Aurélien Devernois, est-ce qu'il y a effectivement une forme de glissement, soit de la manière dont la classe politique conçoit ce besoin d'avoir un casier judiciaire vierge, ou en tout cas est-ce qu'il y a un glissement quelque part dans la société ou dans les médias?
Alors la classe politique n'aime pas trop être contrainte. Ça, oui. C'est une généralité. Elle n'aime pas être contrainte par éventuellement des condamnations, des mises en examen, etc. Elle n'aime pas être contrainte à ne pas cumuler les mandats. D'ailleurs, certains essaient de revenir sur ces dispositions qui font qu'on ne peut plus avoir des mandats, par exemple, de maire et de député en même temps. Donc, la contrainte, par définition, les politiques n'aiment pas ça. Ils font la loi, mais ils ont toujours un peu de mal à se l'appliquer à eux-mêmes. Mais c'est pas propre à la France, hein. C'est partout la même
D'ailleurs,
chose.
D'ailleurs, Donald Trump dit qu'il va peut-être faire un troisième mandat. Lui
voilà,
aussi n'aime pas
exactement.
La contrainte.
Mais après, je pense que peut-être que la question de la relativisation aujourd'hui, par exemple en France, autour de Marine Le Pen, tient aussi à ce qui se passe autour, et notamment avec Donald Trump, et notamment avec d'autres régimes autoritaires. Quand on voit finalement qu'un régime, un pays comme les États-Unis, finalement accepte et même... fait un pont d'or à Donald Trump qui, pourtant, pendant 4 ans, n'avait pas fait preuve d'une réussite extrême en tant que président des États-Unis et qui le réélise finalement 4 ans après, avec tous les dossiers judiciaires qu'il a sur le dos, avec tous ses excès, etc. Peut-être que les gens se disent « Ah, bah finalement, nous, ceux qu'on a en France ne sont peut-être pas si terribles que ça. » Et finalement, avoir détourné 4, 5, 6 millions d'euros sur le dos de l'Union européenne, que de toute façon, on n'aime pas beaucoup.
Oui, c'est ça, c'est lointain pas... en plus pour l'électeur européen.
Voilà,
c'est pas l'argent des Français.
Mais je pense qu'on rentre dans une période aujourd'hui de relativisation de tout, en fait, ce qui fait, quelque part, les règles de nos démocraties libérales ces 30, 40 ou 50 dernières années. Et ça joue, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte au quotidien, mais petit à petit, quand on voit que tout se déconstruit autour de nous, eh bien on se dit que finalement, même si il y a une absence de perfection, eh ben, on n'est pas si mal loti.
Ouais, Jean-Philippe Moinet, est-ce qu'on est dans un relativisme moral qui finalement permet l'émergence de figures comme Trump et peut-être de petits Trump à la française?
Alors, je maintiens ma thèse que la sévérité va se maintenir, mais il y a ce sujet de la tendance lourde qui traverse les démocraties et l'Europe, du national-populisme, tendance xénophobe et autoritaire. Et ça, c'est un fait politique majeur depuis quelques années, mais qui s'est amplifié par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, qui a ces éléments de soutien des extrêmes droites européennes, confère un vice-président des États-Unis qui vient soutenir l'AFD allemande, qui s'est jamais vu dans l'histoire des 80 dernières années des relations Europe-Amérique. Donc il y a quand même effectivement très clairement l'organisation d'une internationale des extrêmes droites qui peut faire qu'une partie de l'opinion se laisse embarquer sur des principes considérés comme obsolètes de notre démocratie et de notre République. Donc ce danger-là existe. Il faut le prendre en face comme une réalité. Et donc il y a cette tension qui peut y avoir effectivement avec l'arrivée d'un ou d'une candidate de l'extrême droite française qui, malgré ses condamnations, arrive à emporter la mise. J'y crois moyennement concernant la France. Peut-être que je je mélange à la fois l'analyse et mon espérance pour la lucidité et la clairvoyance des Français, mais en tout cas, il y a ce danger-là qui existe.
Vous y croyez moyennement, Aurélien de Vernoy, qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce n'est pas une question d'y croire ou pas, c'est une question de est-ce que les éléments peuvent être réunis ? Aujourd'hui, le Rassemblement National est un parti qui pèse très lourd, c'est le premier parti de France, il le revendique et c'est une réalité, on va dire, électorale. Et par ailleurs, il y a aujourd'hui en France un écosystème médiatique par les réseaux sociaux qui, je pense, favorise les narratifs que veut développer le Rassemblement National. C'est quand même assez extraordinaire de voir que sur certaines télévisions, sur certaines radios, dans certains journaux, qui, à longueur de pages, d'éditions spéciales, etc., appellent à une sévérité absolue envers la délinquance, envers les criminels et autres, quand Marine Le Pen se retrouve condamnée en première instance, relativise aussitôt la gravité des faits. Voilà, soutiennent le narratif du RN et relativisent la gravité des faits qui lui sont reprochés. Et ça, quelque part, c'est ce qui a aussi existé et qui a permis, je pense, l'émergence de Donald Trump aux États-Unis. Donald Trump aux États-Unis, il a finalement capitalisé sur quelque chose qui était déjà apparu depuis, on va dire, la fin des années 90, le début des années 2000, qui avait permis l'émergence de George Bush Jr. à l'époque, et qui, quelque part, en se radicalisant toujours un peu plus, eh bien, a permis à une personnalité, on va dire, complètement improbable comme Donald Trump, d'arriver à la Maison-Blanche.
Mais finalement, Marine Le Pen, elle n'est pas forcément improbable. Est-ce qu'on peut imaginer quelqu'un d'autre en profiter, en fait, de cette situation, Aurélien de Vernoy ?
Ah ben, il y a des options qui sont déjà posées sur la table par d'éminents politologues qui disent que pourquoi pas, si Marine Le Pen venait à être empêchée de se présenter à la présidentielle, que Jordan Bardella, qui a lui-même une plainte sur le dos, hein, pour toujours la question des assistants au Parlement européen, lui-même avait des petits soucis de probité, peut-être que ça favoriserait l'émergence d'une personnalité du petit écran qui arriverait comme ça et emporterait la foule française. Moi, à titre personnel, j'ai un petit peu de mal à y croire parce que je pense qu'il y a quand même des vraies différences entre la France et les États-Unis. On n'a pas le même rapport à la réussite individuelle, au fait de faire de l'argent. On n'a pas le même rapport au show business aussi, je pense. On est un petit peu plus conservateur, je pense, sur cet aspect-là. Mais on a vu par le passé que des personnalités issues de l'écosystème d'extrême droite et qui avaient plutôt jusque-là une visibilité surtout médiatique, comme Éric Zemmour, eh ben, on percé politiquement. Il fait quand même 7% à la présidentielle 2022.
Emmanuel Rivière, on va approcher de la fin, mais est-ce que justement une crise qui permettrait à une autre figure de l'extrême droite d'émerger et elle de peut-être réaliser un scénario à la Trump, ça vous paraît crédible ?
En tout cas, il y a un enjeu autour de cette personnalisation. D'ailleurs, c'est complètement au cœur de ce dont on discute depuis tout à l'heure et de cette forme de relativisation, parce que tout ça est très lié à l'essence du populisme aussi, pour deux raisons. D'une part, parce que les figures populistes misent énormément sur la personnalisation. Et du coup, ça devient un énorme sujet qu'une personnalité. Alors là, effectivement, pour le Rassemblement National, il y a éventuellement une substitution avec Jordan Bardella, mais ça devient un énorme sujet que le chef de file soit remis en cause, comme c'était le cas de Trump, alors qu'une personnalité du centre de l'espace politique, si elle est prise dans les ennuis judiciaires, on lui trouve un substitut. Mmh. Et puis l'autre aspect, c'est que une des caractéristiques du populisme, c'est sa capacité à fabriquer ce qu'on appelle pudiquement des vérités alternatives, c'est-à-dire en fait, des mensonges qui permettent de tenir la thèse, effectivement, de la remise en cause du bien fondé sur lequel les condamnations sont prononcées. Et c'est ça qui est fascinant pour moi, pour conclure, c'est comment on a accueilli cette condamnation de Marine Le Pen, non pas en se disant, le Rassemblement National va devoir trouver une autre solution. On s'est inquiété des réactions de l'opinion publique. On s'est jamais inquiété des réactions de la foule quand Dominique Strauss-Kahn a été écarté de la présidentielle de 2011. Parce qu'il y a aussi une espèce de sentiment d'irrationalité de l'électorat populiste qui fait qu'on craint en permanence ces réactions, ce qui est peut-être d'ailleurs une faiblesse.
Merci beaucoup Emmanuel Rivière, mais merci aussi Jean-Philippe Moinet, directeur de la revue Civique, et Aurélien Devernoy du service politique. Merci aussi à Florence Pompes pour la préparation de ce débat. Maintenant, c'est la fin donc de ce débat. Dans une demi-heure, on retrouve Sylvie Berruet pour Afrique Soir. Bernard et Sylvie qui est déjà avec nous pour nous faire un petit teasing. De quoi va-t-on parler ce soir?
Oui, bonsoir Diane, on va parler de cette escalade diplomatique entre l'Algérie et l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Alger annonce la fermeture de son espace aérien avec le Mali. Ces trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina, le Niger et le Mali, accusent l'Algérie d'avoir abattu un drone en territoire malien, accusation rejetée par Alger.
Merci beaucoup Sylvie Berruet, on vous retrouve donc dans une demi-heure.